France Culture.
Et les midis continuent avec, à 13h, l'entretien avec la romancière Fatima Das. Mais tout de suite, l'entretien, c'est avec Marie Sorbier, François Culture, bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Pour la première fois, les lecteurs francophones vont avoir accès au journal de prison intitulé « Notre histoire mérite une fin heureuse » d'Albie Sachs, juriste, activiste et écrivain sud-africain qui a contribué à la rédaction de la Constitution post-apartheid. Édité par les éditions Premier Parallèle, c'est un livre important sur l'engagement, sur la réconciliation possible et l'occasion de découvrir et sa puissance littéraire et sa pensée politique. Et alors Marie, nous sommes chanceux car justement l'écrivain sera à Paris le 8 octobre pour une rencontre à 19h30 au Théâtre de la Concorde. Albie Sachs, figure majeure de l'histoire contemporaine, enfin traduit en français. C'est le dossier du Point Culture du jour. Gilles Tellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation britannique et du Commonwealth à l'Université d'Aix-Marseille. Vous travaillez notamment sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Alors si Albie Sachs est une figure majeure en Afrique du Sud, il est quand même très peu connu en France. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots ?
Bien sûr. Albie Sachs était un défenseur des droits humains en Afrique du Sud dès le plus jeune âge, puisqu'il avait déjà commencé à 17 ans à manifester contre l'apartheid. C'était en 1952 et à cette occasion, il a été arrêté. Il s'était mis dans une section pour noirs et métis, alors que lui-même est blanc. Et donc, de ce fait, a été arrêté par la police, puisque la ségrégation obligeait les blancs et les noirs et les métis à être séparés. Donc 17 ans, c'est déjà un jeune activiste et qui a lutté ensuite toute sa vie, notamment en tant qu'avocat contre l'apartheid. Et cette lutte, il l'a payée assez cher, même si par chance, il est toujours en vie.
Oui, assez cher parce qu'il a été victime lui-même d'un attentat à la voiture piégée dans lequel il a perdu un bras et un œil.
C'est tout à fait ça. C'était en 1988. Il était à ce moment-là en exil au Mozambique, à Maputo. Et les escadrons de la mort de l'apartheid ont placé une bombe pour le tuer, tout simplement. Et par chance, il en a réchappé.
Alors, vous le disiez, il était avocat. Et c'est d'ailleurs grâce à ses compétences en droit qu'il a été approché de Mandela. Quels étaient leurs liens ?
Alors, les liens de Mandela et de Albie Sachs étaient d'avoir le même métier, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux avocats. Ils avaient tous les deux lutté pour défendre les droits des Noirs. Dès le début, Albie Sachs a commencé sa carrière comme défenseur des Noirs contre les lois injustes de l'apartheid, exactement ce que Mandela a fait. Leurs chemins ont été divergents pendant longtemps, puisque Mandela est resté très longtemps en prison. Et Albie Sachs a dû s'exiler en Angleterre en 1966 et n'est revenu en Afrique du Sud qu'en 1990. Donc ils ne se sont vus que plus tard. Mais la communauté de pensée et la volonté de lutter contre l'apartheid et le lien fort qui les a unis, et étant donné son renom, son intégrité, ses compétences d'avocat, et de juge, Albie Sachs a ensuite été nommé à la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud par Mandela pour justement préparer la nouvelle Afrique du Sud, l'Afrique du Sud libre.
Alors, à côté de toutes ces activités militantes et juridiques, c'est aussi un écrivain. Et justement, oui. Les éditions Premier Parallèle sortent son journal de prison, « Notre histoire mérite une fin heureuse », enfin traduit en français par Cécile Dutheil de La Rochère. Pourquoi est-ce un texte important selon vous ?
Alors c'est un texte important d'abord parce qu'il est très bien écrit. Albie Sachs a une très belle plume. Il a commencé en fait ses études avec de la poésie et il dit lui-même que c'est la poésie qui l'a conduit à la politique. Et donc il a une très belle plume et cette plume lui a permis d'exprimer des idées qui sont vraiment assez profondes, je trouve. Le texte lui-même explique comment il a vécu ses années de prison, comment il a justement réagi par rapport aux choses. Il disait par exemple, on sait en tant qu'activiste qu'on risque d'être arrêté, qu'on risque d'être torturé, mais rien ne nous prépare à cela. Et évidemment, son expérience, malheureusement, de torture et d'emprisonnement, il l'a vécu dans sa chair. Et donc, il a pu l'exprimer à travers ses écrits de prison qui, selon lui, lui ont sauvé la vie parce que c'était un moyen de se raccrocher à la vie. Il est resté quand même 168 jours en prison avant l'attentat. Et donc, il a eu le temps de mûrir un petit peu toutes ses craintes, la peur de mourir, etc. Ce qui en fait un texte à la fois historique par rapport à ce que était l'activisme anti-apartheid à l'époque, mais également un texte très humain où il va faire une introspection un petit peu et voir où il puise les forces de lutter contre des choses pas acceptables.
Oui, d'ailleurs, ce livre, ce journal est considéré aujourd'hui comme un classique, j'allais dire, de la littérature carcérale, en tout cas dans le monde anglo-saxon, et c'est heureux que ce soit aujourd'hui traduit en France. Mais est-ce que Albie Sachs est aussi une personnalité qui compte aujourd'hui pour des jeunes en Afrique du Sud? Il y a d'ailleurs, je voulais le signaler, une très belle exposition à Cape Town en ce moment, au MoCA, qui est le musée d'art contemporain, qui retrace la vie et l'œuvre d'Albie Sachs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les jeunes sud-africains s'emparent toujours de cette figure-là?
Alors, je le pense, oui, même si on ne peut pas trop généraliser. Pas mal d'années se sont passées depuis la fin de l'apartheid. Beaucoup de jeunes sud-africains sont des born free, c'est-à-dire qu'ils sont nés après l'apartheid, et donc ils n'ont des échos de l'apartheid que par l'histoire, que par leurs parents, que par justement ce travail de mémoire qui est fait en Afrique du Sud. Néanmoins, je pense quand même qu'il est très connu parce qu'il n'a pas simplement été un activiste anti-apartheid, il a aussi participé à la création de la nouvelle Afrique du Sud. L'exemple le plus frappant, c'est qu'il a participé à la rédaction de la Constitution sud-africaine qui a été votée en 1996 et qui a donc de ce fait posé les bases de la démocratie et sécurisé en quelque sorte la démocratie sud-africaine. Il a également été à la source de la réflexion sur la commission Vérité-Réconciliation que Mandela a mis en place en 1995 pour justement arriver à dépasser les clivages en Afrique du Sud et à essayer, tant bien que mal, à une forme de réconciliation. Au-delà de ça, il a participé aussi à des choses importantes, comme par exemple interdire la peine de mort en Afrique du Sud, ou encore permettre le mariage pour tous, bien avant la France par exemple, avec d'autres choses comme ça dont il a été le promoteur. Et avec d'autres, bien sûr, il n'était pas le seul. Mais de ce fait, il est connu aujourd'hui pour avoir un impact sur cette nouvelle société.
Et est-ce que vous avez l'impression, puisque maintenant on peut le lire en français, à l'heure où l'on interroge justement en France notre mémoire coloniale, que ce texte peut résonner aussi ici en 2025 ?
Alors je le pense parce que c'est un texte qui est assez universel. Le genre des cris de prison est un genre très prisé, notamment dans le monde anglo-saxon, comme vous le soulignez. Et donc ces réflexions humaines autour de la justice et éventuellement la vengeance. Lui, il a toujours dit que il était pour une vengeance douce. Et cette vengeance douce, c'est en fait d'obtenir la démocratie. C'est ça sa vengeance. Plutôt, il disait bien. On me rendra jamais mon bras, on me rendra jamais mon œil, mais par contre, moi, ma satisfaction, j'atteindrai la plénitude quand la démocratie sera là. Et bien évidemment, elle est arrivée et il en a profité. Donc, on est dans quelque chose d'assez universel et ce texte doit nous parler, même s'il a été écrit il y a quelques décennies et qui parle d'une époque qui, heureusement, est révolue en Afrique du Sud. Mais ce texte doit pouvoir permettre à tout lecteur de faire sa propre introspection. Qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Est-ce que si ceci arrivait dans mon pays, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, ce type de réflexion.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Tellier.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on connaît enfin le nom de la nouvelle directrice du 104 à Paris.
Oui, et c'est Valérie Sangor, la directrice adjointe du Centre des Monuments Nationaux, qui vient d'être nommée pour succéder à José Manuel Goncalves, qui fut à la tête du 104 pendant 15 ans. Cette élection met fin à plusieurs mois de tractations difficiles entre la mairie de Paris, qui appuyait la candidature de Valérie Sangor, et le jury qui se positionnait, lui, en faveur du metteur en scène Mohamed El Khatib. Accueillant chaque année un demi-million de visiteurs, le 104 est devenu, depuis sa création en 2008, un des hauts lieux de la vie culturelle parisienne.
De plus en plus d'artistes voient leur travail usurpé sur les sites de commerce en ligne comme Shein, Temu ou encore AliExpress.
Oui, c'est ce que révèle une enquête de Libération. Depuis quelques années, illustrateurs, graphistes ou designers retrouvent leurs créations reprises à l'identique sur des produits mis en vente par ces grandes plateformes de commerce en ligne. Une pratique illégale qui touche des artistes du monde entier ayant tous en commun d'être peu connus du grand public. Si les sites proposent aux artistes de signaler ces articles contrefaits, aucune politique d'envergure n'est proposée pour enrayer ce vol massif qui se fait au détriment de petits créateurs.
Et pour finir, Marie Jim Jarmusch remporte le Lion d'Or au Festival du film de Venise.
Et oui, le cinéaste américain a été récompensé pour son long métrage Father, Mother, Sister, Brother, un anti-film d'action selon ses propres termes, un triptyque sur le thème de la famille entre le New Jersey, Dublin et Paris. Il sera en salle le 7 janvier 2026 en France. Le Lion d'Argent a été décerné à The Voice of Indrabaj, de la réalisatrice Kauter Ben Hania. Le film qui suit le travail du Croissant Rouge palestinien à Gaza avait été ovationné pendant plus de 20 minutes après sa projection à la Mostra.
Merci Marie et on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.